VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire, nouveau remous au sein de l'armée ivoirienne. Des tirs ont été échangés entre forces de l'ordre à Boaké. Le Rwanda dément avant avoir conclu un accord avec Israël pour accueillir des milliers de migrants soudanais ou érythréens. Un geste inédit en politique africaine, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a rendu visite au chef de l'opposition souffrant Morgan Tsvangirai. Il faisait la une de l'actualité américaine depuis plusieurs jours, la fureur et le feu, le brûlot du journaliste américain Michael Wolff, consacré à Donald Trump et à son entourage, paraît ce vendredi. Dans 10 minutes, c'est la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Le Rwanda a démenti ce vendredi avoir conclu un accord avec Israël pour accueillir des milliers de migrants soudanais ou érythréens en situation irrégulière que l'État hébreu souhaite expulser. Il y a eu des négociations par le passé, mais il n'y a eu aucun accord. Cette histoire d'un accord entre Israël et le Rwanda est une fausse information, a déclaré à l'AFP le secrétaire d'État aux affaires étrangères Olivier Nduhungire, en précisant que ces discussions avaient eu lieu il y a 3 ans. Nouveau remous au sein de l'armée ivoirienne, la nuit dernière, des soldats de la 3e région militaire et certains éléments du centre de coordination des décisions opérationnelles ont eu une altercation qui s'est soldée par des échanges de tirs à Boaké, Siriki Baro.
On ignore jusqu'à présent les raisons de cet autre incident au sein de l'armée à Boaké. Entre 3h et 5h du matin, les populations habitant les alentours du camp de la 3e région militaire ont été réveillées par des tirs. Selon nos renseignements, tout est parti d'une altercation entre soldats de la 3e région militaire et certains éléments du centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. Des échanges de tirs qui, toujours selon nos sources, n'ont fait aucune victime. Par ailleurs, au cours de cette même nuit, une patrouille du CCDO a été la cible d'individus armés au quartier Dar es Salaam. Bilan de cette attaque, un blessé dans les rangs du CCDO. Après cette nuit agitée, les populations, dont la plupart ignorent ces événements, vaquent tranquillement à leurs occupations. Une délégation du haut commandement est arrivée ce jour à Boaké pour comprendre les raisons de ce soubresaut. Siriki Baro, Boaké pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le procureur militaire confirme l'inculpation du colonel Auguste Denise Barry pour complot et incitation des militaires à la commission d'actes contraires à la discipline et au devoir. Le colonel Barry, qui dirige le centre d'études stratégiques en défense et sécurité, a été placé en détention immédiatement après sa comparution. Ce proche de l'ancien premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, était soupçonné de fomenter une opération de déstabilisation du régime du président Kabore. Au Sud-Soudan, des heurts ont éclaté près de Juba, la capitale, entre des troupes gouvernementales et les rebelles, en violation du cessez-le-feu signé le mois dernier, Ekiabadou.
Les affrontements armés ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à l'ouest de Juba, dans le secteur de Kapour. C'est la première fois que des heurts sont signalés près de la capitale. Les autorités sud-soudanaises accusent les rebelles d'avoir attaqué des positions gouvernementales en dépit du cessez-le-feu en vigueur. Plusieurs morts selon le porte-parole de l'armée. « Nous n'attaquons jamais Juba », souligne Lam Paul Gabriel, porte-parole adjoint des forces de Riek Machar. Pour les rebelles fidèles à l'ex-vice-président, il s'agit de propagande visant à attribuer des violations du cessez-le-feu aux adversaires du gouvernement. En début de semaine, les membres de la Troïka, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, avaient adressé une sévère mise en garde aux chefs militaires des deux parties en conflit, une guerre qui, depuis 4 ans, ont coûté la vie à des dizaines de milliers de gens. La Troïka leur demande de respecter l'accord de cessation des hostilités signé le 21 décembre à Addis Abeba par le gouvernement sud-soudanais et les groupes rebelles.
Ekiabadou. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, a reçu la visite du nouveau président Emmerson Mnangagwa. Une rencontre saluée par l'opposition. Claire Morin-Gibourg.
Le président Mnangagwa et son vice-président Chamisa se sont entretenus avec Morgan Tsvangirai, atteint d'un cancer du côlon. À l'issue de cette visite effectuée au domicile du chef de l'opposition, le président zimbabwéen s'est voulu rassurant. Il va très bien, il récupère très bien, a assuré le chef de l'État. pour Nelson Chamisa, cette visite de courtoisie est un exemple de la vie politique que nous souhaitons. C'est la politique de la paix, du travailler ensemble. Voilà notre direction, a affirmé le vice-président zimbabwéen. Investi par la ZANU-PF, le parti au pouvoir, Emmerson Mnangagwa a promis des élections transparentes, libres et honnêtes. Des propos mis en doute par certains opposants qui rappellent que M. Mnangagwa a longtemps été le bras droit de l'ancien dictateur Robert Mugabe.
Et toujours au Zimbabwe, un touriste zimbabwéen de 90 ans a été tué et un autre grièvement blessé par un crocodile qui a attaqué leur bateau pneumatique dans le parc national de Matopos, près d'un barrage infesté de crocodiles. Il faisait partie d'un groupe qui pique-niquait au moment de l'incident. Il est regrettable qu'ils aient utilisé des bateaux pneumatiques qui ne sont pas autorisés, a fait savoir l'autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe. La police sud-africaine a annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire au lendemain de la collision dans le centre du pays d'un train et d'un poids lourd qui a fait au moins 18 morts et plus de 200 blessés selon le dernier bilan. En Libye, des combats entre groupes armés ont éclaté dans l'ouest du pays, près de la frontière tunisienne, provoquant la fermeture du point de passage principal entre les deux pays, selon un responsable local. Les affrontements opposent deux groupes qui affirment tous deux leur loyauté au gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et appuyé par la communauté internationale. En Égypte, Noël sous haute protection demain samedi pour les Coptes après une année particulièrement meurtrière pour la plus importante communauté chrétienne du Proche-Orient. Depuis plus d'un an, les Coptes, dont le pape Tawadros II est un fidèle soutien au régime du président Abdel Fattah al-Sissi, ont été la cible de plusieurs attentats, notamment contre des églises qui ont fait plus de 100 morts.
La rencontre entre les deux Corées aura lieu le 9 janvier à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée.
Séoul et Pyongyang se sont mis d'accord ce vendredi pour tenir mardi prochain leur première discussion en 2 ans dans un nouveau signe de détente à 1 mois des Jeux Olympiques en Corée du Sud. Nathalie Barge.
La rencontre entre les deux Corées aura lieu le 9 janvier à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée. Elle portera notamment sur les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud et sur la question de l'amélioration des relations intercoréennes. Cette reprise de dialogue intervient après 2 années de tensions au cours desquelles la Corée du Nord a mené de nouveaux essais nucléaires et balistiques. Les pourparlers de fin 2015 s'étaient soldés par un échec et avaient été suivis par un 4e essai nucléaire nord-coréen. Pyongyang, qui soutient avoir besoin de l'arme atomique pour se protéger de l'hostilité de Washington, est sous le coup de multiples trains de sanctions internationales, dont 3 nouvelles séries votées l'an dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pour les Palestiniens, elle est devenue une icône de la lutte contre l'occupation israélienne. Ahed Tamimi, 16 ans, arrêté avec sa cousine Nour, 20 ans, le 19 décembre, pour avoir frappé des soldats en Cisjordanie, restera en détention jusqu'au 8 janvier avec sa mère. Le tribunal militaire d'Ofer a retenu lundi 12 chefs d'inculpation contre l'adolescente et 5 contre sa mère Nariman. Ahed Tamimi, qualifiée dans les médias israéliens de provocatrice, s'est fait connaître par des confrontations avec l'armée israélienne depuis ses 12 ans. Suspension définitive de la liaison Madrid-Malabo pour Iberia. La compagnie aérienne espagnole a annoncé que la décision sera effective le 22 janvier, malgré le refus exprimé fin décembre par Malabo de cette décision. En cause, les taxes aéroportuaires élevées, le coût du carburant et le peu de profit sur cette ligne, selon les médias équato-guinéens. La compagnie espagnole Iberia dessert la Guinée équatoriale depuis près d'un demi-siècle. En France, le président français Emmanuel Macron a proposé à la Turquie un partenariat avec l'Union européenne à défaut d'une adhésion afin de préserver, dit-il, l'ancrage de ce pays en Europe à l'issue d'un entretien à Paris avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Monsieur Macron, qui dit avoir eu une discussion très franche avec monsieur Erdogan, a ajouté « Il est clair que les évolutions récentes et les choix de la Turquie en matière d'état de droit ne permettent aucune avancée du processus engagé engagé et le président turc de répliquer que son pays était fatigué d'attendre une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
Interruption de la distribution de la presse internationale au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Des difficultés pour les distributeurs locaux à honorer leurs impayés auprès du groupe de distribution français Presstalis en serait la cause. Depuis le 22 décembre, le distributeur ivoirien Edipress ne reçoit plus de presse internationale en raison d'un différend financier l'opposant au groupe français. Selon Bertrand Hall, le directeur général d'Edipress, cela représente une perte de 25 millions de francs CFA par semaine. Jusqu'à une date récente, Edipress et le Sénégalais ADP étaient tous les deux des filiales de Presstalis. Le gouvernement marocain a promis jeudi de mettre en place un nouveau plan de développement pour la région du Nord-Est, plongée dans un marasme économique depuis la fermeture des mines à la fin des années 1990. Après la mort accidentelle de deux mineurs dans un puits de charbon clandestin, un mouvement auto-baptisé Marche du Pain Noir manifeste quotidiennement. Le ministre de l'Énergie, Aziz Reba, a tenté de jouer des pompiers à Girada avant que le gouvernement assure, dans un communiqué publié jeudi 4 janvier, que l'appel de Girada a été entendu. La compagnie aérienne espagnole Iberia avait annoncé la suspension définitive de ses vols vers Malabo en raison des taxes aéroportuaires élevées, du coût du carburant et du peu de profit sur cette ligne. C'est ce qu'avaient relayé les médias d'État équato-guinéens en décembre. Le gouvernement de Guinée équatoriale avait rejeté le 19 décembre cette décision de suspendre les vols, estimant à l'époque que le gouvernement espagnol doit prendre ses responsabilités. La compagnie espagnole Iberia dessert la Guinée équatoriale depuis près d'un demi-siècle.
Place au sport avec vous, Dilidico, bonsoir.
Bonsoir Anna, on enchaîne avec du foot, le championnat d'Espagne.
Alors, le Barça champion ?
Pas encore Anna, le FC Barça plane sur un nuage, mais il ne devrait pas s'endormir sur ses lauriers. Certes, à mi-saison, le FC Barça a repoussé à 9 longueurs son plus proche concurrent, l'Atlético Madrid. Un écart quasi définitif dans l'histoire récente du championnat d'Espagne, mais gare au triomphalisme ce week-end lors de la 18e journée. Dimanche après-midi, le Barça devra garder le cap au Camp Nou face à Levante, 16e, au risque de relancer les appétits adverses. Au classement, les rivaux sont très loin et à deux matchs de la fin de la phase aller, le club catalan premier avec 45 points est déjà champion d'hiver.
Réaction du Real ?
De son côté, le Real veut croire à l'incroyable, relégué à 14 longueurs du Barça. Le Real, quatrième avec 31 points, semble avoir abandonné la couronne de champion d'Espagne à son grand rival. Mais l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane a su rêver d'une folle remontada, surtout avec le retour de Gareth Bale en pleine forme.
Dilly, démission au sein du Comité international olympique.
Tout à fait Anna, le néerlandais Camille Eurlings, sous les feux des critiques pour une affaire de violence conjugale, a démissionné ce vendredi de ses fonctions de membre du Comité international olympique. Cet ancien ministre et patron de la compagnie aérienne KLM était membre du CIO depuis 2013.
Et puis, nouvelle édition du rallye de Dakar.
L'édition 2018 du rallye raid Dakar débute demain, samedi 6, et s'achèvera le 20 janvier. Elle se déroulera entre Lima et Cordoba, en Argentine.
C'est noté. Pour terminer, Dilly, le championnat de basket nord-américain.
Golden State a dompté jeudi son grand rival de la conférence Ouest, Houston, pour signer sa 9e victoire consécutive à l'extérieur, 124 à 114. Dans l'autre rencontre de la soirée, Oklahoma City a dominé les Los Angeles Clippers, 127 à 117, au Staples Center grâce à Russell Westbrook. Westbrook, meilleur joueur MVP de la saison 2016-2017, a bouclé la rencontre avec un 13e triple-double, 29 points, 12 rebonds, 11 passes décisive.
C'était la chronique sport présentée ce soir par Dilidico. Merci.
Merci Anna.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Place à la deuxième partie du Monde aujourd'hui, nos dossiers du jour qui commencent ici, aux États-Unis, avec la publication aujourd'hui du livre Fire and Fury Inside the Trump White House, un livre qui décrit une Maison Blanche soumise aux sautes d'humeur et à la personnalité supposément artificielle du président Donald Trump. Pour le locataire de la Maison Blanche, l'ouvrage contient plein de mensonges, de déformations et des sources qui n'existent pas. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
De ce que j'ai compris, Michael Wolff avait un accès au personnel de la Maison-Blanche au début de l'administration. Pourquoi c'est inconnu en ce moment? Parce qu'il a une réputation de, je ne veux pas dire mentir, mais peut-être agrandir les histoires. Donc, il y a plusieurs personnels dans la Maison Blanche qui ont déjà dit qu'ils n'ont pas dit ce qui est dans le livre. Donc voilà.
Justement, la plupart des témoignages sont anonymes. Cela pose-t-il problème?
Oui, ça devient un problème pour les médias. Mais il y a des journalistes qui rapportent que les gens disent des choses, mais ils refusent de donner leur nom. C'est sous condition d'anonymité qu'on est libre de parler. Et donc, il n'est pas un moyen de pouvoir vérifier cela. Ce n'est pas seulement le problème avec le livre de Michael Wolff, mais pour les médias en général en ce moment. Et ça doit être assez frustrant pour n'importe quel président.
D'après des extraits, personne au sein de l'équipe de campagne ne s'attendait à ce que Donald Trump remporte l'élection et lui-même ne voulait pas devenir président. Faut-il mettre en question la crédibilité de l'auteur, encore une fois?
Oui, peut-être. Moi, je ne connais pas très bien son travail, mais bien sûr, pour le président, comme j'ai dit, ça doit être très frustrant. Alors, si Trump n'a pas été motivé pour devenir président, mais pourquoi est-ce qu'il a fait? Enfin, il a chassé 16 autres candidats républicains. Il a gagné contre Hillary Clinton. Je ne sais pas. Et il est très difficile de juger les motivations des journalistes ou même d'autres dans la Maison Blanche. Nous avons la situation maintenant avec Steve Bannon qui est très bizarre. Mais le problème, je crois, pour Trump, c'est que ça continue tout le temps. Hein. Il y a toujours quelque chose avec les médias, et toujours sur Twitter, et il dit des choses. Et puis c'est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Les avocats du président pourront-ils empêcher la publication du livre?
Non, je ne crois pas. C'est très difficile. Vous savez, nous avons la Constitution, la Première Amendement. On est libre de publier n'importe quoi. Bien sûr, s'il y a des mensonges, ça existe parfois, mais c'est très difficile de passer la barre pour les cours américains d'empêcher la publication de quelque chose. Ben, il faut peut-être demander à Richard Nixon qui voulait empêcher les Pentagon Papers dans les années 70. Il a échoué. Donc, tout cela entre Bannon et Trump, les avocats et les menaces des juges, ça ne va nulle part. Hein.
Le politologue américain Richard S. Conley, joint à Gainesville, en Floride.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
On reste aux États-Unis où les États de la côte Est sont sous l'emprise d'une vague de froid à la suite d'une gigantesque tempête de neige appelée bombe cyclonique. Celle-ci a occasionné des chutes de neige dans les États du Sud qui en voient rarement. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclenché l'alerte grand froid pour certaines parties de l'État. Le mauvais temps a aussi paralysé des milliers de vols et a causé un déraillement de trains en Géorgie. C'est un reportage de Zlatika Hoke. Récit Raissa Girondin.
La visibilité était mauvaise à Times Square à New York, alors que les équipes de déneigement nettoyaient les rues environnantes. Michael Vente, travailleur à Times Square.
Comment ça se passe? C'est dur, mais on doit le faire. Faut bien qu'on le fasse.
Mais les habitants ainsi que les visiteurs sont sortis braver le froid. Ebony Sugar, visiteur d'Australie.
Je pense que c'est une grande nouveauté. Je ne sais pas si j'aimerais la voir chaque hiver.
Je suis très à l'aise avec la chaleur en Australie,
mais c'est une bonne nouveauté.
Mais quand le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé un état d'urgence jeudi, il a recommandé vivement aux citoyens de rester loin des routes dans la mesure du possible.
J'ai été sur la majeure partie des routes dans la région métropolitaine ce matin. Je peux vous dire que c'est horrible, dangereux et lent. Donc bien que nous soyons des New-Yorkais invincibles, un peu de prudence. Et si vous n'avez pas l'obligation de sortir aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour conduire si vous n'êtes pas obligé de conduire.
Le temps glacial a causé le déraillement d'un train d'Amtrak avec presque 300 passagers à la station de Savannah en Géorgie. Il n'y a eu aucune perte humaine dans ce train qui reliait Miami à New York. Mais les accidents de la route sont fréquents sur les autoroutes des États qui voient rarement la neige. Trey de Lamar, habitant de Savannah.
Les gens n'ont juste pas d'expérience de conduire dans la neige, donc nous n'avons pas beaucoup de camions pour saler la route. On préfère gratter parce que nous n'en avons pas besoin souvent, donc c'est un peu difficile et un peu plus lent pour se déplacer.
Les familles voyageant dans le sud pour fuir la neige ont bien été surprises. Jessica Rufus, touriste de Chicago.
Nous avons pensé qu'en allant dans le sud, ça allait être agréable et chaud. Nous avons quitté la neige et le temps froid de Chicago, mais toujours de la neige, quoique c'est beau.
Mais les habitants locaux ne sont pas habitués au froid et même les sans-abri en Floride ont eu à rechercher un toit. Le froid glacial devrait s'atténuer lundi.
On se quitte avec du football. Une étoile du football africain vient de s'éteindre. Lai Moussa Camara, dit Papa Camara, ancien footballeur et milieu de terrain du célèbre Afia FC et du Sili National de Guinée, a tiré sa révérence le 4 janvier dans une clinique de Conakry des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 68 ans. Papa Camara a donné une interview à Georges Léonard Sagnot en septembre dernier. Écoutons-le.
Je suis né le 7 novembre 1950 à Conakry, et puis de Maman de Ba Camara qui travaillait au PTT, ensuite de Fatou Dina Camara. Donc j'ai évolué, j'étais dans le sport de main, le basketball, le volleyball, le tennis de table, et mon beau-frère, Cheikh Top, par rapport à son insistance, m'a amené dans le football. Quoi. Grâce à Dieu, j'ai fait ce que j'ai pu faire dans ce football-là pour le pays, voilà. Et le reste, vous devez le savoir. Heureusement qu'il y a encore des archives qui peuvent le confirmer. Donc, c'est ce que je peux vous dire.
Nabi Lai Moussa Camara, parlez-nous de Afia, le club au sein duquel vous avez évolué et que vous continuez à défendre aujourd'hui.
J'ai eu une chance parce que j'avais eu, à mon arrivée dans le Afia, faire, n'est-ce pas, des grands footballeurs, Eric Lehmann, qui fut l'unique ballon d'or de la Guinée, Maxime Camara, qui n'est plus de notre père à son âme, et mais avant tout ceci, j'ai commencé par Conakry, avec les candidats de M. Bu, qui jouait dans l'équipe nationale, tout, j'ai eu la chance de jouer avec candidats, les Billing du Souma, aujourd'hui, à ce métal, heureusement, il va beaucoup mieux aujourd'hui, malade, mais il va beaucoup mieux. Beaucoup de personnes. Et Afia, pratiquement, ça a été, si vous voulez, une forme de sélection nationale. Parce que tous les meilleurs footballeurs de la Guinée, vous les amenez dans le Afia Football Club.
Quel est le secret de votre entente et de vos succès?
Il n'y avait pas de secret.
Parlez-nous, Papa Camara, de la victoire du Afia 77. On en parle beaucoup. Que s'est-il passé réellement?
Pour le triplé, moi j'ai participé à toutes les coupes remportées par le Afia Football Club. 72, 67, 76, qu'on a raté, 77. Le président Mendes Touré, chaque fois qu'il parlait, il disait, le Afia Football Club, notre équipe nationale. Peut-être que ça a été, bon, une motivation pour certains dirigeants qui étaient à côté. Et la première coupe de Afia dans les buts, j'avais déjà Sina qui était à Boulibiné de Conakry, Jacob Bangoura de Conakry, Folke Sekou de Conakry, Souma Souba et Dante, Seul et Calva qui étaient de Conakry 2 là. Il était à Moussouane Solo parce qu'il était à l'université, il est de Conakry. Hein. Le salaire des anciens footballeurs, on ne paye plus depuis combien d'années là?
C'était Feu Papa Camara, ancien footballeur du Afia FC et du Sili National de Guinée, au micro de Georges Léonard Sagno. Elle s'appelle Liana, la chanson « Toi et moi ». C'est ainsi que nous disons au revoir. Merci d'avoir suivi cette édition du Monde aujourd'hui à la mise en onde. Lionel Gaïma, assisté de Shadrach Franklin. Je suis Anastasie Tudiech pour l'actualité 24 heures sur 24. Rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Dans le cadre des efforts du gouvernement américain pour améliorer la santé de tous les Ougandais, l'Agence américaine pour le développement international USAID a lancé récemment une nouvelle initiative de 28,3 millions de dollars pour renforcer les services de santé dans la région d'Acholi. Ce projet de 5 ans appelé l'intégration régionale de la santé pour améliorer les services dans le nord de l'Ouganda, Acholi, Rite Acholi, permettra au district de santé du nord de l'Ouganda de fournir de meilleurs services médicaux aux Ougandais. En collaboration avec les partenaires locaux, l'initiative Rite Acholi augmentera la disponibilité des prestataires de soins de santé, améliorera l'accès aux médicaments et aux produits de base, favorisera le fonctionnement et l'entretien efficace des équipements et améliorera la gestion des services de santé. De plus, l'initiative favorisera l'adoption de comportements sains en sensibilisant les personnes, les fournisseurs et les collectivités en vue de réduire les retards dans les recherches de soins et les obstacles à l'utilisation des services. L'USAID a attribué le projet Rite Acholi à University Research Co. LLC, une ONG de la santé qui travaille depuis longtemps en Ouganda. Cette initiative fait partie de l'investissement annuel du gouvernement américain d'environ 500 millions de dollars dans le secteur de la santé en Ouganda. Les États-Unis sont fiers de travailler avec leurs partenaires l'Ouganda pour améliorer les soins de santé et le bien-être du peuple ougandais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.